le journal de Mili Ngumba Mulongo.
Dernier jour, c'est vendredi pour les dépôts de liste des combattants par les chefs de groupes armés de l'Ituri et Ross Mountain parlait d'une dernière chance pour ces ex-combattants de rejoindre les processus DDR. Kasaï Occidental, les rapporteurs de l'Assemblée provinciale dénoncent la montée de l'insécurité à Tshikapa suite à la complaisance des autorités. Le maire de Tshikapa, lui, la justifie par l'insuffisance des effectifs des agents de l'ordre. Au moins 100 porcs meurent chaque jour dans la province de l'Équateur des suites d'une maladie non encore identifiée. Information confirmée par le vétérinaire du territoire de Yakoma. Mesdames, Messieurs, bonjour. Plus de 2800 combattants de l'Ituri sont déjà inscrits sur les listes pour les désarmements. Selon les estimations des autorités congolaises, il en reste au moins 1600. Les chefs de groupes armés de l'Ituri doivent déposer les listes de ceux qui restent. Le délai expire ce vendredi 17 août. Le temps de la guerre est passé, il faut reconstruire le pays. C'est l'appel que lancent les responsables de l'unité d'exécution du programme national de désarmement Tumbalwaba.
C'est vraiment la dernière chance et les responsables de groupes armés eux-mêmes nous ont dit qu'ils ne vont plus tolérer qu'il y ait d'autres groupes armés qui apparaissent à Ituri et nous n'accepterons plus d'autres groupes armés à Ituri, c'est fini, on ne tolérera plus de violence à Ituri. L'État est venu pour la paix et pour la reconstruction. Et pour eux, l'intérêt est que parmi eux, il y a des gens qui ont été par exemple embarqués par la force ou sans le vouloir dans les groupes armés et qui veulent regagner la vie civile. Nous leur donnons cette dernière chance. Au stade de la réinsertion, il y a même l'apprentissage d'un métier, d'une profession. Le PNUD prévoit même des programmes de développement et de reconstruction communautaire. Ce qui revient à dire, ce que les ex-combattants ont détruit hier, ils doivent contribuer à reconstruire.
Cet appel du responsable de l'unité d'exécution du programme national DDR est renforcé par celui du représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC pour Ross Mountain. Ce vendredi 17 août constitue la dernière chance accordée aux ex-combattants pour rejoindre les processus DDR. On l'écoute.
Ce vendredi, le 17, c'est la dernière chance, le dernier délai pour les milices de ces trois groupes de s'enregistrer pour faire partie de ce programme, ce dernier programme qui sera offert aux milices en Ituri. C'est la dernière chance d'être le bénéficiaire de ce programme et de faire partie de le développement en paix de la communauté d'Ituri que la population et effectivement RDC en tout attend. On vous attend.
Nord Kivu, les militaires de la brigade mixée Bravo de forces armées de la RDC ne gardent plus les positions qu'ils occupaient depuis plusieurs mois sur l'axe Kwendania-Kakuma en territoire de Rutshuru. Ces militaires ont levé leur camp sur cet axe depuis trois jours, sauf à Nyamilima, et ce sont des combattants outurandais des FDLR qui contrôleraient ces secteurs depuis lors, rapportent les habitants sur place. Côté 8e région militaire, les responsables disent qu'une équipe est déjà sur place à Rutshuru pour vérifier cette situation. Bernadette Nyangi.
C'est depuis mercredi dernier que les habitants du groupement Binz en territoire de Rutshuru disent avoir observé des mouvements des militaires mixés de la brigade des Bravo qui levaient leur camp. Et depuis le même jour, ce sont des hommes en armes présentés comme des combattants FDLR qui reprenaient carrément les postes abandonnés. Une situation qui, selon les habitants, a été observée dans plusieurs autres localités situées sur cet axe, depuis Kwenda, à 15 km de Kiwanja, jusqu'à Nyakakuma, 90 km plus au nord, au bord du lac Edouard. Selon des sources administratives et du territoire de Rutshuru, seul Nyamilima, 50 km de Kiwanja, est encore sous contrôle d'un bataillon de la brigade des Bravo. Un responsable de la brigade des Bravo affirmait, lui, que ses troupes ont été appelées à d'autres urgences ailleurs, dans le même secteur, sans plus. Pour le général Mayala Kiama, commandant de la 8e région militaire, il est encore difficile de confirmer si ces nouveaux occupants sont réellement des FDLR ou juste des villageois. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Sud Kivu, la population de Kamituga se plaint du rançonnement dont elle est objet de la part de forces armées de la RDC. En effet, selon des témoignages des habitants, des barrières sont érigées à plusieurs endroits sur la nationale numéro 2. Chaque passant est sommé de débourser un montant en francs congolais à l'aller comme au retour. C'est ce qui explique Vincent de Paul Soumaïli Songa, président de la société civile de Kamituga, au micro d'Astrid Mujinga.
Ce qui se passe, c'est les rançonnements de la population. Les barrières sont érigées par-ci, par-là. Il y en a beaucoup sur la nationale numéro 2, sur le raccourci de Kasanga, à l'entrée comme à la sortie, à l'entrée de la cité minière de Kamituga. Et partout là-bas, on exige aux passants 100 francs congolais et même plus. Chacun qui voudrait passer, il doit payer ça sans exception. Que ce soit les élèves qui vont à l'école, que ce soit les petits paysans qui se rendent au marché, que ce soit les passants qui n'ont rien avec eux, ils doivent payer. Il dit que ce sont des postes de contrôle parce qu'il y a la présence des FDL dans le coin. Quant à nos populations, c'est des barrières maquillées comme ça.
Interrogé à ce propos, le major Crispin Tambwe Kabwit, commandant bataillon de l'Uiro à Kamituga, préfère parler de postes de contrôle dans des lieux stratégiques. On l'écoute toujours au micro d'Astrid Mujinga.
Barrière, c'est quoi, madame? Quand on dit une barrière, c'est-à-dire, vous barrez la route. Mais moi, je ne barre pas la route. J'ai des militaires au-delà, d'ailleurs, de la nationale numéro 2. Ils sont stationnés pour contrôle et observation.
Mais tout à l'heure, là, ils ont quand même reconnu que de temps en temps, on leur donne 50 francs et 100 francs.
Volontaire, mais ce n'est pas obligatoire. Volontaire, si vous donnez, est-ce que moi je saurais que si tu as donné aux militaires, parce que moi je suis à Kamituga, mon terrain est très vaste.
Toujours à ces sujets, le major Crispin Tambwe a néanmoins promis d'envoyer son chargé des renseignements sur les lieux pour lui rendre compte de la situation. Les rapporteurs adjoints de l'Assemblée provinciale du Kasaï occidental en vacances parlementaires à Chikapa affirment que la montée de l'insécurité dans cette ville est une conséquence de la complaisance des autorités. Delaire Kawin Nondongo l'a dit dans un point de presse tenu sur place mercredi dernier. Il fustige surtout la multiplicité de postes de contrôle érigés à travers la ville et les territoires, postes qui, d'après lui, profitent aux autorités pour rançonner les populations au lieu de les sécuriser.
Là où il y a toujours les incidents aux mêmes endroits et qu'à tout moment le conseil de sécurité se réunit, on dit non, c'est à tel endroit, prenons des mesures de sécurité pour sécuriser. C'est au moment qu'ils prennent des dispositions pour sécuriser qu'il y aura plus d'insécurité. Il y a le poste de contrôle à travers toute la ville et à travers tous les territoires. Juste 500 francs que vous donnez, vous passez. Même si vous avez votre bombe, vous allez passer. Même si vous avez des armes, vous allez passer. Il y a une complaisance, il y a une complicité.
En réaction, le maire de Chikapa lie la montée de la criminalité à l'insuffisance des effectifs des agents de l'ordre. Albert Mutombo se dit rassurant dans le travail du Conseil des sécurités urbaines en vue de réduire cette insécurité.
Nous prenons des dispositions dans la ville. Chaque jour ici, il y a des patrouilles mixtes, policiers, militaires. Et nous avons sensibilisé même le chef de quartier à contribuer. Ils sont dans les rues. Ils travaillent chaque jour. Il arrive que les événements se déroulent comme ils se déroulent partout, mais nous avons moins d'effectifs de policiers, moins d'effectifs de militaires. Il faut que je vous signale que les policiers, les militaires qui sont à Chikapaville appartiennent à la ville et le territoire. Ils ne sont pas tous pour la ville et tous pour le territoire. Donc le Conseil de sécurité fait son travail.
Notez que l'inspection provinciale de la police s'apprête à envoyer ses éléments sur place pour le lancement de l'opération Chikapa Ville sans armes. Ce dossier a été réalisé pour vous par Pierrot et la Meji. Kasaï oriental, les commandants du sous-commissariat de services spéciaux de la police à Bakwa Chimuna, localité située à 15 km de Mbujimayi, agressée hier jeudi par des inciviques. C'est presque dans un état inconscient que la victime a été emmenée dans un hôpital de la ville de Mbujimayi où il est en soins intensifs. Chris Mukonde.
Le corps du commandant des services spéciaux porte plusieurs blessures. La tête grosse est fendue à plusieurs endroits, signe de la violence de l'attaque dont il a été l'objet. Des témoins contactés sur place à Bakwa Chimuna Benamatempu expliquent que le policier est tombé dans un traquenard des personnes qui ont apprécié mal qu'il ait arrêté un de leurs, soupçonné comme suicidaire ou créseur de diamants usant d'armes de guerre. C'est en allant vérifier une cachette d'armes sous la conduite du présumé suicidaire que le commissaire de police a été maîtrisé par un groupe de personnes. Celles-ci l'ont copieusement battu à coups de bâton et des machettes et ont tenté de le plonger dans une fosse septique. Puis elles l'ont enfermé dans une hutte avec promesse des lits calcinés. C'est à travers une brèche pratiquée dans le mur que le policier a pu se libérer de sa séquestration. Pour le commandant des services spéciaux, Loupatapata, c'est à Benabilonda, de l'autre côté de la rivière Lubilangi, que des suicidaires ont tenté de tuer son collègue après l'avoir forcé de monter dans une pirogue. L'administrateur de territoire de Loupatapata, Pascal Manda, dans le rapport affirme que le policier a été lynché par la population, annonce l'ouverture de l'enquête. Quelques personnes seraient déjà interpellées par la police et la NER. Mbujimayi, Chris Mukambe, Radio Kapi.
Province orientale, les députés provinciaux en vacances parlementaires expriment des préoccupations sur les fonctionnements des institutions judiciaires de Bounia. Au cours d'un point de presse hier jeudi, ils ont dénoncé non seulement la détention illégale, mais aussi le non-traitement d'une centaine de dossiers de libération conditionnelle des condamnés introduits depuis l'année dernière au ministère de la Justice. Ce constat a été fait lors des visites effectuées les 13 et 14 août dernier dans les institutions judiciaires de la place, la prison centrale et autres cachots de la police. Écoutons John Tinazabo, leur porte-parole.
Vous savez que notre prison est surpeuplée et cela expose beaucoup les prisonniers. Nous avons vu un document assez important au regard de la loi adressé au ministère de la Justice dans le cadre des libérations conditionnelles. Il faudrait que dès qu'il y ait une procédure de libération conditionnelle engagée, que cela porte du fruit pour désengorger la prison. Parce que finalement, on risque de connaître beaucoup de cas de morts. Nous avions recommandé que l'on puisse accélérer les procédures judiciaires afin que chaque détenu soit fixé de son sort. S'il est condamné, il purge sa peine et s'il doit être acquitté, et qu'il le soit le plus tôt. Mais aussi que soient régularisées les détentions illégales. Et c'est de cette façon-là que nous allons construire un état de droit.
Réagissant à ce propos, le procureur de la République près les tribunaux des grandes instances de Litori dit être surpris. Chris Abéry, qui remet donc en cause ce constat, déclare que les députés pouvaient au préalable le rencontrer pour bien approfondir les résultats de leur enquête.
Nous sommes surpris quand ils disent que les dossiers sont gelés. Ils n'ont pas détaillé il s'agit de quel dossier. Donc c'est pour dire qu'ils ne sont pas entrés dans le détail de leur travail. Donc j'ai dit qu'ils devaient venir avec les éléments qu'ils ont pu avoir au niveau de la prison et on devait étudier avec eux cas par cas pour voir si telle personne est en détention régulière ou pas, ou tel dossier, pourquoi ça n'évolue pas. Mais ils ne sont pas rentrés. Mais nous sommes surpris de voir qu'ils se sont précipités à publier communiquer.
Les députés provinciaux promettent de soumettre leurs préoccupations à la prochaine plénière de l'Assemblée provinciale prévue au mois de septembre prochain. Un reportage signé Aliana Alipanagama. Exactement 12 heures passées des 12 minutes dans la province de l'Équateur, dans les territoires de Yakoma, à l'extrême nord-est de cette province, une maladie non encore identifiée décime le porc depuis une semaine. Selon Jean Zoma Binze, vétérinaire du territoire, la maladie touche pratiquement toute l'étendue des trois secteurs de Yakoma. Chaque jour, rapporte ce vétérinaire, on enregistre au moins 100 porcs qui meurent de cette maladie. Il soupçonne la peste porcine suite aux symptômes que présentent les animaux malades. Le vétérinaire Jean Zoma, joint au téléphone par Dominique Olumbi.
Subitement, au cours de cette période, nous avons remarqué qu'il y a la mort intensive de bêtes de race porcine. Les bêtes meurent subitement. L'animal est triste, abattu, il a l'inappétence, forte fièvre et des vomissements. Après que ça tombe, l'animal meurt tout de suite. Nous n'avons pas de matériel, ni de médicaments, ni de vaccins, nous n'avons presque rien. Et je fais seulement le rapport à l'administrateur qui puisse m'autoriser, me chercher les moyens logistiques pour sensibiliser la population de ce territoire qui a 3665 km². J'ai proposé qu'on puisse sensibiliser les éleveurs, d'éliminer chaque tête qui présente les symptômes momentanément à l'abattoir public, qu'on ne puisse pas encore abattre le cochon. Au plus tard, demain, je vais transférer le rapport.
Comme mesure préventive, le vétérinaire Zoma Binde interdit la vente et la consommation de la viande de porc jusqu'à nouvel ordre dans les territoires de Yakoma. Bakongo à présent, le pont reliant la cité de Tchiela à la frontière angolaise de Cabinda a cédé dimanche dernier. Cette situation empêche le passage de véhicules entre les deux pays. Pour atteindre la nationale numéro 1 à partir de cette cité, les véhicules qui empruntent cette voie routière sont obligés de faire un détour de plus ou moins 20 km pour revenir à Tchiela. Dani Kindanzita.
Construit à l'époque coloniale, ce pont métallique jeté sur la rivière Ngomamba avait la capacité de supporter une charge de 10 tonnes seulement. Il est long d'une vingtaine de mètres et se trouve en plein centre de la cité de Tchiela dans le bas fleuve. L'administrateur du territoire de Tchiela affirme que ce pont a cédé dimanche dernier après le passage d'un gros véhicule de marque MAN. Ce gros engin avait à son bord des marchandises en provenance de la frontière angolaise de Cabinda. À savoir que tous les véhicules en partance pour Kinshasa et Cabinda passent par ce pont. Pour le moment, les camionneurs sont confrontés à une grande difficulté de sortie, mais aussi d'entrée dans cette contrée de la République démocratique du Congo. Pour atteindre la nationale numéro 1, les véhicules sont obligés de faire un détour en passant par Miolo, Louvu et enfin rentrer à Tchela, deux localités dont l'état des routes est impraticable et laisse à désirer, a dit l'administrateur du territoire de Tchela. Comme solution palliative, l'ingénieur de l'entreprise Forabola a proposé un contour dans les environs de la rivière Ngomamba en attendant la réparation de ces ponts par l'autorité provinciale du Bas-Congo. Matadi, Dani Kindanzita, Radio Okapi.
C'est la fin de ce journal.